Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com
Beaucoup de gens vont simplement au travail parce qu'ils doivent aller au travail. D'autres, certains deviennent des espèces de bourreaux de travail. Des gens qu'on appelle les workaholics. En fait, qui sont toujours à vouloir travailler, mais parfois aussi commencent à travailler pour une certaine obsession d'obtenir plus d'argent. C'est viscéral, c'est profond. Et on est dans cette série-là, Dieu merci, c'est lundi, qui apporte ce plan-là du travail. Est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, comment Dieu entrevoit le travail? Et c'était quoi l'objectif depuis le départ? Pour certaines personnes, je dis le mot travail et c'est comme une espèce de mot qu'il faut pas prononcer. Une espèce de mot qui est c'est un mot mauvais, c'est un méchant mot, ce travail, dis pas ce mot-là. Ce qu'on a réalisé, c'est que Dieu nous a formés, nous a créés pour créer, construire, bâtir, gérer sa création. Et notre adoration envers Dieu, c'est le service qu'on fait envers cette création-là. Et nous, on a l'impression parfois que notre adoration s'arrête simplement après le dimanche. Donc, c'est fini, on a fait de l'adoration, on a fait de la louange, ça s'arrête là. Et c'est cette notion-là qui est fausse ou qui est distorsionnée, que la réalité, c'est qu'on continue à louer Dieu et adorer Dieu constamment dans notre vie. C'est pas parce qu'on arrête la conversation de prière qu'on n'est plus en communication avec Dieu. C'est pas dans ce sens-là. Et s'il y a une chose que Dieu a avantage sur toutes les autres personnes que vous pouvez côtoyer dans votre vie, c'est qu'il est toujours disponible. Amen. Toujours présent, peu importe où ce que tu trouves, même quand tu n'as pas de réseau. Dieu est rejoignable. Toujours, Dieu est là. Peu importe où on se trouve, peu importe la situation dans laquelle on est, ça ne change rien. Et on a vu comment le travail et le plan de Dieu depuis le début de la Genèse. On en est venu à réaliser que le travail n'est pas une malédiction en soi. Souvent, on pense que le travail est une malédiction. En fait, non, parce que le travail a été créé, conçu avant la chute de l'homme, avant que le péché entre dans le monde. Et c'est le péché qui a tout brisé, cette notion-là. Et ce qu'il faut vous réaliser, c'est que le péché, on s'arrête parfois simplement à dire « ça a brisé notre relation avec Dieu ». Mais en fait, ce qu'on réalise pas, c'est pour vrai, le péché a brisé toutes nos relations. Nos relations avec les autres, nos relations avec nous-mêmes, nos relations avec Dieu. Tout ça a été affecté. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent ces mauvaises perceptions-là ou ces mauvais points de vue-là, parce que le péché a brisé ça ou a brisé la notion que Dieu voulait apporter pour nous autres. J'ai mentionné dans les messages que de changer ta vision de ton lieu de travail va t'aider de pouvoir le voir comme un endroit où tu peux servir Dieu à tous les jours et à chaque instant. Ah, ça, c'était un bon bout, ça. Ça, c'était extraordinaire. Ça, c'était le bout. Oh, oui! J'ai mentionné aussi de le passage dans Colossiens au troisième chapitre, Colossiens 3, qui dit ceci. « Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu, par lui, Dieu le Père. » En fait, la réalité, c'est de comprendre que tout ce que vous faites, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit, peu importe à quel endroit vous vous trouvez, c'est... Ah oui, merci beaucoup, c'est gentil ça. Ça va aider ma voix un peu. Bon, ça l'aide ma voix. Ça va beaucoup mieux. Donc, tout ce que vous faites, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai terminé la semaine dernière en donnant quelques idées, exemples de comment on peut faire pour que toi aussi tu puisses dire « je pense que je pourrais faire ça ». Et aujourd'hui, le titre du message, je reprends un peu où on a laissé, le titre du message aujourd'hui, c'est « appelé à servir ». Nous sommes appelés à servir. Merci beaucoup. Imaginez-vous un jeudi soir il y a à peu près 2000 ans. Imaginez-vous une soirée il y a à peu près 2000 ans. Et tous les disciples sont réunis dans une pièce ensemble. Ils vont avoir un repas qui va devenir ou être le dernier repas officiel, qui va être ce qu'on appelle la communion, la Sainte Cène. Et là, ils arrivent dans cette pièce-là, toute la gang est là. Puis là, ils commencent à avoir cette argumentation-là qui éclate au milieu de ce gang-là. Qui est le plus grand? qui est le plus grand dans la gang? Et c'est cette discussion-là qui commence, alors que ça va être le dernier moment de Jésus. Et ce qu'on sait pas, ce qu'on n'est pas certain comment ça a commencé, cette histoire-là, mais il semble, on dirait que ça a comme déjà commencé avant. C'est quelque chose qui est, oups, qu'on, ils ont repris un peu cet argument, tu sais, de s'argumenter. C'était quelque chose qui semblait être déjà là. Et Jésus va intervenir dans l'histoire, puis il va apporter un enseignement, tu sais, une espèce comme ta tante, ta mère ou ta grand-mère t'a fait « Ah, les enfants », tu sais, le genre, là. Et Jésus va débarquer dans la conversation, puis il va faire ce genre d'enseignement-là. Mais la plupart des théologiens et les commentaires de bibliques pensent que la raison pourquoi ils ont commencé à s'argumenter et à voir ça, c'est super intéressant, c'est que la personne qui avait été prévue ou engagée, ou peu importe, à être à la porte pour s'occuper de laver les pieds des gens, ne s'était pas présenté. La personne est juste pas venue. Et c'est ce qui mènerait à cette argumentation-là pour savoir, ben, c'est la faute de qui devrait le faire d'abord, comment ça se fait, qui a pas vu, qu'est-ce qui est arrivé. Et un petit peu, c'est ce qui mène à cette dispute-là. Fait qu'imaginez-vous ce soir-là, un jeudi soir, il y a à peu près 2000 ans. Et là, t'as Pierre qui commence, puis il dit, ouais, gang, ouais, les gars. On a-tu vraiment cette discussion-là, là? Parce que je veux juste dire, j'ai marché sur l'eau, moi. Je dis ça de même. Je laisse ça là. Mais André, son frère, a peut-être répondu, oui, mais à mon souvenir, t'es le seul qui a coulé dans l'eau aussi. Et là, peut-être que Mathieu qui lève le ton et qui dit, OK, gang, là, calmez-vous. Ici, dans la pièce, c'est probablement moi qui est le plus riche que toutes vous autres ensemble. Et Thomas, de le regarder, de dire, j'en doute. Imaginez peut-être que Jean et Jacques qui ont levé la voix, les autres ont dit, hey, oh, la gang, oh, je veux juste dire, réalisez-vous, les amis, que dans une couple de milliers d'années, il va y avoir tellement de parents qui vont donner le nom à leurs enfants à cause de nous autres. Jean pis Jacques. Et pendant le temps qu'ils s'argumentent, pour vrai, ils sont en train de s'argumenter à ce sujet-là. Il y a une espèce d'obstination. Et pendant le temps qu'ils s'argumentent sur le sujet, Jésus fait ce que Jésus fait. Il revient à quelque chose qu'il a déjà partagé auparavant. Puis là, il leur dit, le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Et là, il commence à parler dans ce sens-là. Et Jésus sait très bien qu'ils vont, comme d'habitude, probablement oublier une bonne partie de ce qu'ils sont en train de dire. Et là, on arrive au Jean au 13e chapitre, versets 3 et 5 à 5. Ça dit ceci. Jésus savait lui-même... Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournait à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus, et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples. Puis il les essuie avec un linge qu'il avait autour de la taille. Imaginez-vous un instant. Imaginez-vous l'instant où toute cette argumentation-là se produit. Et là, ils sont autour de la table, et Jésus se lève, et là, tout à coup, ce qu'ils entendent, c'est quelqu'un qui verse de l'eau dans une cuvette. Quelqu'un qui est en train de verser de l'eau dans la cuvette. Et là, ils se retournent, et ils voient Jésus qui s'en vient avec cette petite cuvette-là, puis le linge, puis il s'en vient laver les pieds de tout le monde. Avec ce linge-là, il les essuie. Quel genre de moment où le Dieu de la création donne un exemple. J'ai volontairement sauté le verset 1, mais je veux vous le montrer. Ça dit, c'est pourquoi il voulut donner aux siens, qui allaient rester dans ce monde, une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. Wow! Je vais arrêter là un instant. J'ai fait exprès de le sauter parce que je veux que vous compreniez quelque chose. On voit Jésus qui s'est levé de table, on comprend tout ça, mais ce verset-là, ce qui est très intéressant de noter, c'est que ce verset-là est placé à cet endroit-là. Et je vais vous faire réaliser quelque chose. Ce verset-là n'est pas placé avant la crucifixion. Il n'est pas placé au moment où il va tout donner sa vie, là. Il est placé à cet endroit-là. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et il place le verset directement à cet endroit-là. Et il dit, voici la preuve de l'amour suprême. Et il la place juste avant de se lever de table, de prendre de l'eau et de leur laver les pieds. Ce verset-là n'apparaît pas avant la crucifixion. Il apparaît à cet endroit-là. C'est particulier. Soit, moi, je me suis dit, il y a deux choses. Soit leurs pieds étaient tellement sales, ça n'avait pas de bon sens. Ou ça devait être très important et significatif, ce qu'ils faisaient. Moi, je penche pour la deuxième. Donc, il y a une raison pourquoi Jésus fait ça, puis il dit, c'est pourquoi il voulut donner aux siens qui allaient rester dans son une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. Je vais vous prouver jusqu'à quel point je vous aime. Wow! Et ce qui est intéressant, et pour ça, je veux que vous compreniez que la crucifixion, c'est ce qui amène l'expiation du péché. C'est ce qui fait qu'on est pur et propre devant Dieu. Mais il parle ici de la preuve suprême de son amour. Et dans certains versets, il ajouta à son... C'est comme la plus grande preuve que je peux donner. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que Jésus a fait ça pour une raison. Parce que Jésus, on va voir tantôt, il va dire, « Je vous ai donné un exemple de comment aimer. » Et vous faites la même chose. Et c'est ce qui va se passer. La fin de, quand le Jean 13 continue, c'est dans ce Jean 13-là, Jean 13, 35, quand Jésus va dire, « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » En fait, Jésus fait référence à ce qu'il est en train de faire là. Il fait référence exactement à ce qu'il est en train de faire là. La preuve suprême. Voyez comment je vous ai aimé? C'est pas une affaire, parce que la crucifixion est pas arrivée, puis les autres, ils ont aucune idée que ça s'en vient là. Ils trouvent ça bizarre, parce que Jésus en parle de plus en plus, puis les autres font comme, non, non, tu mourras pas, calme-toi, là. Puis Jésus leur dit ouvertement, eux autres, ils ont de la misère à croire. Ils ont aucune idée. C'est parce que nous, on connaît l'histoire. C'est souvent ça, le problème. On fait comme, ben oui, mais regarde, il va arriver ça. Oui, mais ils le savent pas, eux autres. Mais combien de fois, vous autres, si je vous disais, faites-vous-en pas, là, regarde, il va arriver ça. Oui, mais c'est parce que vous êtes en train de le vivre, là. Vous savez pas ce qui s'en vient, là. Eux, ici, il se passe la même chose. Et Jésus dit, il veut donner une preuve suprême de l'amour dont il les a toujours aimés. Regardez bien, on va un petit peu plus loin dans Jean 13, verset 14, 15 et le verset 17. Il dit ceci, « Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Ça, c'est un bout difficile. J'ai souvent dit que les chrétiens sont beaucoup plus connaissants ou ont un niveau de connaissance beaucoup plus haut que celui de leur obéissance. On sait bien plus de choses que de choses qu'on met en pratique. Mais on veut en savoir plus. Bon, on veut en savoir plus. Moi, mais pratique déjà, qu'est-ce que t'as? Tu sais que tu devrais faire? Commence par ça. C'est déjà pas mal, là. Il y a déjà pas mal de stock, là. On a fait une couple de versets pis on fait comme, OK. Wow. Dans ce troisième message de la série, je veux vous montrer à quel point Dieu lit les différentes sections de notre vie quand on pense que nous, elles sont séparées, en fait. J'ai souvent mentionné qu'on a cette notion-là de dimanche matin, louange, adoration, culte, da-da-da-da, et quand on arrive le lundi, c'est comme un autre monde, c'est une autre réalité, on vit ailleurs, donc ça marche pas. Mais je veux résumer le tout cette idée-là en une phrase. C'est ceci, Dieu nous a conçus pour travailler et... Il nous appelle à servir. Je répète ça. Dieu nous a conçus pour travailler. Et il nous appelle à servir. Parce que pour Dieu, c'est lié ensemble. Je vous apporte quatre points pour être utilisé par Dieu au travail. Comment on peut faire ça? J'essaie de faire ça. Mais toi, si tu dis, peut-être aujourd'hui, tu m'entends et tu dis, ah ben moi... J'en ai pas vraiment de travail, je travaille pas en ce moment où j'ai pas de job ou je veux juste prendre un instant pour te remercier. Je veux te remercier d'être ici ou d'être en train d'écouter le message. Parce que je suis certain, convaincu que l'ennemi nos âmes, le diable, a probablement déjà murmuré dans ton cœur de dire ça vaut pas la peine d'aller écouter cette série là. Ça parle même pas pour toi, tu travailles pas. Je veux juste te dire merci d'avoir résisté à cette tentation-là et d'être venu malgré ça. Parce que je sais que Dieu va utiliser ce message-là dans ta vie. Je sais que Dieu va prendre ce que je vais donner aujourd'hui pour que tu puisses l'appliquer. La première chose, quatre points qu'on peut regarder ensemble, la première, c'est celle-ci. Servir. vous prépare à de plus grandes responsabilités. Ce que vous faites dans vos premières années, quand vous commencez quelque chose, vous prépare aux responsabilités que vous allez faire face plus tard. Des fois, on néglige ça. On banalise les petites choses parce qu'on se dit « Ah, oh, mais c'est pas si important que ça, dans le fond, parce que en réalité, moi, je t'appelais à des plus grandes choses que ça. » Non. Ça commence là, la formation. C'est dans les petits détails, les petites choses. C'est là que Dieu te prépare. Dieu vous prépare à des restes. Et quand tu commences par des choses banales, qui semblent sans importance, à tes yeux, ça me fait penser à un personnage, ça me fait penser beaucoup à David dans l'Ancien Testament. Et un jour, il y a cette histoire-là où Samuel s'en vient pour oindre le prochain roi, pour nommer le prochain roi qui va succéder à Saül. Et à ce moment-là, Samuel s'en va chez Isaïe, qui est le père de David. En fait, il y a plusieurs frères. David, c'est le kid de la famille. Et Samuel arrive là, puis il dit à Isaïe, « OK, sont où tous tes fils? » Puis là, il regarde, puis des hommes de stature, des hommes de guerre, des combattants, là, des combattants UFC, là, tu sais, du monde, là, des gros gars solides, là. Et ils passent tous devant un, puis Dieu dit « Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. » Puis à un moment donné, il arrive à la fin, puis il dit « Il n'y en a aucun. » Puis là, il va dire au père « Coudonc, tu n'as-tu d'autres? » Parce que Dieu, il me dit qu'il n'y a aucun d'eux autres. Il dit « Ben oui, il en reste un, mais il est dans le champ, il s'occupe des moutons. » C'est David. Et Samuel va dire « Allez le chercher. » Samuel est en train de s'occuper, pas Samuel, David est en train de s'occuper des moutons dans le champ. On va envoyer le kid s'occuper des moutons, nous autres, on a d'autres choses à faire. Dieu a préparé David à devenir le plus grand roi de l'histoire d'Israël dans le champ. C'est dans le champ que ça a commencé. Alors que personne regardait, personne savait ce qu'il faisait. Le caractère, c'est ce que t'es quand personne te regarde. Quand il y a personne pour agir bien, qui te pousse à agir bien, mais tu le fais, c'est ça le caractère. Et c'est ça que Dieu développe dans les choses qui sont banales. Qui semblent banales, qui semblent sans grande importance. Parce que parfois, Dieu utilise le banal pour vous préparer au monumental. Et c'est cet exemple-là qu'on voit. Jésus démontre clairement comment il s'attend à ce que chaque disciple se comporte. Je peux-tu avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Donc, parfois, Dieu utilise le banal pour nous préparer au monumental. On minimise les petites choses, mais ce que Dieu fait, c'est qu'il prend ces petites choses-là pour nous préparer à ce qu'il a comme projet. Et vous savez pourquoi plusieurs de personnes avortent leur appel? C'est qu'ils veulent juste pas passer là. Ils refusent de faire ce que Dieu leur demande, pensant qu'ils se disent, mais c'est pas pour moi, ça. Moi, j'ai plus de connaissances que ça, je suis plus grand que ça, je devrais pas m'abaisser à faire ça. Et ça, c'est les mots que j'ai entendus, là. Je m'abaisserai pas à faire ça, moi, je suis pas appelé à ça, moi. Commence là. Commence à t'occuper des moutons puis de ramasser le caca de mouton. Occupe-toi de ça. Ramasse la laine. Ouais, mais je suis pas. Moi, je suis supposé être roi d'Israël, moi. Vous savez, quand Samuel est venu puis a oint David, dit ça va être le prochain roi, c'est pas, il est parti puis il l'a mis sur le trône, là. Il s'est passé plusieurs années avant que David arrive à être le roi. Parce que Dieu nous prépare. Dieu nous forme. Et souvent j'ai vu des gens qui disent, mais moi, j'attends que je me suis, tu sais, j'ai toute la formation, j'ai toute la connaissance pour faire ça. Vous savez quoi? Dieu n'appelle pas des gens formés. Dieu forme des gens appelés. Dieu développe, fait grandir. Et souvent, on a le sentiment, on dit, mais moi, je suis pas à la hauteur, j'ai pas ce qu'il faut. Ça, c'est l'autre côté du spectre. Ben, je pourrais jamais rien faire de bon, je veux juste, non, t'as mal compris. Dans les deux cas, ce sont de l'orgueil. De se prendre pour un autre, puis de se prendre pour un autre. Non, mais dans les deux cas, c'est la même affaire. C'est vrai. Tu te prends pour un autre, nous, on pense juste que c'est comme plus haut que toi, mais tu peux te prendre pour un autre plus bas que toi. Tu te dis, ouais, mais c'est pas... Non. L'humilité, c'est de se voir comme Dieu dit de nous. Regardez bien Matthieu au 25e chapitre, le verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » C'est Jésus qui dit ça. C'est dans les petites choses. Je t'ai confié de petites choses sans valeur, qui semblent banales. Et puisque tu as été fidèle dans les choses qui semblaient banales, je te prépare au monumental. Réalisez-vous que la récompense pour avoir servi, je veux vous comprendre quelque chose, je trouve ça super intéressant quand on regarde la Bible. Je veux vous comprendre que quand on lit la Bible, on a l'impression où on a beaucoup c'est très abstrait ce qui se passe après la mort ou ce qui va se passer au ciel. Mais je veux vous réaliser quelque chose, c'est la récompense d'avoir servi n'est pas de ne plus rien faire. Parce qu'il dit ici, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai donc celle de beaucoup de valeur. Tu vas avoir encore plus de job. C'est ça que ça dit. Nous, on a l'impression qu'aller au ciel, on s'en va tous s'asseoir sur un nuage, manger du fromage Philadelphia, là. Non, c'est pas ça. Une harpe, là. On n'a jamais joué d'harpe, mais on va jouer de l'harpe, toute la gang. C'est une drôle de notion. Il va un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dieu recommence. Il nous va nous remettre encore là, puis on va encore faire. Nous, on pense que le travail, c'est le problème. Non, c'est notre cœur le problème. Et Jésus jamais dit, ah, c'est ta famille, c'est le problème. Tes enfants, c'est le problème. Tes enfants, c'est le problème. Tes enfants, c'est le problème. Oh, excusez. Non. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il a jamais dit, c'est ton travail le problème. C'est... Non! Jésus a toujours ciblé de dire, c'est le cœur le problème. Et à moins que ton cœur ne soit changé, tout le reste va toujours être difforme, toute défaite et brisée en morceaux. Tout. Peu importe tes relations dans ta vie, que ça soit relation familiale, relation amoureuse, relation de travail, relation avec toi-même, peu importe relation avec Dieu, ça va toujours être brisé. Tant et aussi longtemps que Jésus vient pas le restaurer. Ça va toujours être cassé parce que c'est brisé en morceaux. Et on n'a pas ce qu'il faut pour le réparer. On l'a brisé, mais on sait pas comment le réparer. Avec Dieu, c'est « you break, I fix ». C'est, on le brise, Dieu le répare. Mais il faut aller à Dieu pour ça. C'est Jésus qui a fait ça. Donc, il faut réaliser que, quand je disais tantôt que cette récompense-là d'avoir bien travaillé, ce n'est pas de plus travailler. C'est de donner plus de responsabilité, une opportunité d'avoir encore plus d'influence. Et comme croyant, mais encore plus comme leader et responsable, je parle à ceux qui sont dans l'église aussi, ici, c'est de promouvoir un meilleur service, pas le plus gros égo. Être le meilleur serviteur, pas celui qui a le plus gros titre. Je savais qu'il y aurait tout cet enthousiasme. Et je poussais... Mais non, ça compte pas. OK. Deuxième point, regardez. Le travail vous permet d'être partenaire avec Dieu. Depuis la création, depuis le tout début, quand on a regardé, le but de Dieu, c'est que l'humain soit partenaire avec lui pour s'occuper de la création. C'est ce que Dieu a fait. Il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver, le garder. Dieu voulait être partenaire avec lui-même pour s'en occuper. Puis dire, oh, on va faire ça, on va faire une plantation. Ah ouais, on part quelque chose. C'est comme si, toute illustration est boiteuse, là, c'est comme si Dieu dit, on se part en business, on est partner. Voici notre production, c'est ça. Sauf qu'il y a un des partners qui a voulu faire Lone Ranger, il a décidé de faire à sa tête, puis il a brisé la relation d'affaires. Et Jésus dit, ben on va restaurer ça, cette relation-là. Mais Dieu a encore le même plan d'être partenaire avec nous autres pour s'occuper de sa création. Et le travail, gardez vos tomates, le travail, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Le travail, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Là, il y en a qui se disent, c'est quand le prochain échange de cadeaux, hein? C'est quand... Quand est-ce qu'on peut changer nos cadeaux? Peut-être aller changer ça, là? Ecclésiaste, 3e chapitre, le verset 13, dit ceci. Lorsqu'un homme mange, boit et jouit de quoi? Des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. Oh my God, on peut-tu en découper des versets, hein? On pourrait-tu les enlever? Il y a du monde dans le monde. Dieu nous a créé de manière à ce que lorsque vous utilisez les talents qu'il a placés en vous et qu'il a mis pour son service, vous allez en retirer une grande satisfaction. C'est ça que Dieu est en train de dire. Ce que tu vas faire, ce résultat-là, tu vas en bénéficier, tu vas être content, tu vas être heureux d'avoir fait ça quand tu mets ça à mon service. Il y avait une histoire que j'ai lue dans un livre d'un auteur qui s'appelle, je me rappelle pas du livre, c'est Howard Hendricks. Howard Hendricks, il racontait une histoire qu'un moment donné, il est dans un avion, il y a une personne qui est comme mal commode dans l'avion, tu sais, qui fait venir les agents de bord pis qui arrête pas de chialer, blablabla, pis là, ça c'est pas bon, pis là, je suis pas content. Pis... ceux qui ont pris l'avion, il y en a toujours un comme ça, quelque part, là. Et ça dure une quinzaine de minutes, puis l'agent de bord, elle vient, elle dit, oui, mais monsieur. Puis elle réussit, au bout de 15 minutes, à garder son sang-froid, sa patience, puis de calmer le monsieur. Puis elle s'en retourne vers l'arrière de l'avion, puis l'auteur Howard Hendricks, il raconte qu'il dit, je me suis levé parce que j'étais comme interpellé en me disant, mais wow! Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il dit, je vais aller la voir. Fait qu'il s'en va voir l'agent de bord, puis il lui dit, j'aimerais ça pouvoir écrire une lettre à la compagnie aérienne pour leur dire à quel point vous avez fait un travail merveilleux. Est-ce que c'est possible de me dire votre nom? Fait que, alors qu'il demande ça, l'agent de bord, elle lui répond, elle dit, mais je travaille pas pour la compagnie aérienne. Puis lui, il dit, non. Elle dit, non, moi, je travaille pour Jésus. Puis elle dit, je peux être patiente avec ce gars-là à cause de Jésus. Ma question, c'est pour qui tu travailles? Dieu pourrait-il t'utiliser comme cette femme-là? Il l'a fait. Et là, vous vous dites, oh, gentil pasteur, pasteur naïf. Tu comprends pas, pasteur. Moi, je vis dans le vrai monde, dans le monde des affaires. Je vis dans le monde et je pourrais jamais parler comme ça. Je vais perdre ma job. Je suis pas en train de vous dire de monter sa table à cafétéria pour prêcher à tout le monde. C'est pas ça que je dis. Je veux juste vous dire, je vous dis simplement que tu peux servir comme Jésus. Être Jésus là où tu es, c'est-à-dire servir les autres. Et il est bien mieux, et c'est drôle, c'est un pasteur qui va dire ça, là. C'est meilleur de voir un sermon que d'en entendre un. Comprenez-vous ce que je vous dis? C'est meilleur de voir la parole de Dieu en action que de l'entendre. Ça fait un impact. Ça a une influence majeure. Maintenant, troisième point qu'on peut regarder. Dieu, on va regarder ça, ça sera pas long. Prochaine diapo. Et voilà. Je parle à vous autres, les gars, là. Dieu jugera votre travail. Non, non, c'est pas vrai. Non, non. C'est ça. Dieu va juger votre travail dans une perspective différente de celle des hommes. Vous savez, Dieu nous jugera de ce qu'il sait qu'il nous a créé pour faire, ce qu'il nous a donné. Je sais pas si vous comprenez, Dieu a un plan qu'il avait déjà mis en l'être humain, c'est-à-dire de donner des talents, des dons, des ressources pour les mettre à son service. Et j'ai toujours dit, puis je vous le mentionnais la semaine dernière, la meilleure façon de servir Dieu, c'est de servir les autres. C'est la meilleure preuve que vous pouvez faire. La meilleure façon que vous pouvez servir Dieu, c'est de servir les autres. D'être au service des autres. Et Dieu vous a donné des dons, vous a donné des talents, vous a donné des capacités. Et on va voir ensemble dans Colossiens au 3e chapitre, le verset 23-24, qui dit ceci. « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera, vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. » En fait, ça, on l'oublie. Peut-être que vous devriez mettre ça sur le tableau de bord de votre voiture quand vous rentrez dans l'auto. Tu t'en vas servir Dieu. Peut-être que vous devriez avoir ça au bureau quand vous rentrez. Je suis au service de Dieu. Rappelle-toi qui tu sers, pour qui tu travailles. Si tu sers Dieu, c'est totalement différent ta vision des choses. Pour qui tu travailles? La réponse que tu donnes en toi-même indique qui tu sers. Des fois, on entend cette expression-là que des personnes, tu sais, disent « Ah, oh, il fait le mille d'extra. » Avez-vous entendu ça? Il fait l'extra. Il n'y a pas grand monde qui réalise dans la vie que c'est en fait c'est Jésus qui a dit ça. C'est une phrase de Jésus dans Matthieu au 5e chapitre, le verset 41 qui dit « Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. En fait, ce que Jésus dit, puis nous, on a perdu un petit peu parfois cette notion-là parce que faut le mettre dans un contexte. Il y a un contexte particulier. Oubliez pas, Rome, c'est l'empire qui domine à ce moment-là. Et eux autres, ce que Rome voulait, Rome l'obtenait. OK? Et eux autres qui disaient, si les soldats avaient traversé la ville, devaient marcher et qu'ils avaient le stock, en fait, ils disaient, toi, tu prends mon stock, tu le fais. Et il y avait des poteaux, il y avait des distances. Et ils savaient qu'ils devaient se rendre à l'autre poteau, exemple. Fait que tu devais prendre, t'en aller marcher le mille avec le stock. Puis quand t'arrives là, le déposer au poteau. Bon, moi, j'ai fini. Ça débarque. Je vais prendre un autre. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que quand tu arriveras à l'autre poteau, continue. Rends-toi à l'autre poteau. Wow! Tu me demandes de faire... C'était ça, la limite, c'est un poteau. Puis là, tu me demandes d'aller à l'autre poteau. C'est comme si Jésus était en train de leur dire, si tu es un de mes disciples, ben c'est ça que je te demande de faire, d'agir comme moi. Sers la personne. Sois à son service. Probablement que le soldat se demanderait pourquoi tu continues. Et là, tu pourrais lui expliquer. Tu peux expliquer. Quelqu'un te demande, mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu fais ça? Tu peux lui expliquer. Parce que en réalité, je sers Jésus. Je suis au service de Dieu. Je veux le servir et servir Dieu égale servir toi. Donc, je vais le faire, moi. Je vais m'en occuper. Puis, des fois, on se dit, mais ça peut avoir de l'air de quoi, ce genre de patente-là, tu sais. Dans votre réalité au travail, pouvez-vous imaginer le genre de conversation que ça peut démarrer? Puis, à quoi ça peut bien ressembler si tu te rendrais un petit peu plus loin, si tu faisais le deuxième mille? Ça ressemblerait à quoi? Et vous savez ce que j'ai appris ou ce que j'ai réalisé dans ma propre vie? C'est que c'est dans le deuxième mille que réellement tu prends conscience de pourquoi tu le fais. C'est que tu es en train de faire l'autre partie. Puis, dans ma propre vie, c'est là que Dieu me parle le plus. Parce que tout à coup, je ne fais plus les choses parce que je dois les faire, mais parce que je veux les faire. J'ai décidé de le faire. J'ai pris cette décision-là de le faire. Maintenant, si tu veux avoir une voix au travail, savez-vous, elle va venir où? Dans le deuxième mille. C'est là que ta voix va s'élever. C'est là que tu vas faire une différence. Quatrième point, c'est celui-ci. Lorsque vous êtes un serviteur, les autres auront un aperçu de Jésus. Les autres vont voir Jésus à travers toi. Moi, je me suis imaginé une histoire. Imaginez un scénario, vous allez au restaurant. Vous allez au restaurant et la serveuse ou le serveur qui vous sert a un tatou d'une croix sur la main. Et à toutes les fois qu'elle vient, la personne vous porter un menu, vient vous porter de l'eau, vient vous porter des ustensiles, vous voyez la croix. Moi, ça me fait penser à ça. Je me dis, c'est si on pouvait toujours regarder tous les gestes qui sont faits comme si on regardait la croix. De dire, je suis en train de servir Jésus. C'est à lui que je mets mes regards. Et ce que j'aimerais, puis ça c'est la prière de ma vie, c'est que j'aimerais que lorsque je sers les autres, que les autres puissent voir la croix. Et que ce soit un constant rappel de la croix. Matthieu, 5e chapitre, le verset 6, qui dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites. Et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux, afin qu'il voit. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça dit qu'il voit? C'est pas V-O-I-X, pas une voix, mais qu'il regarde, qu'il puisse témoigner par leurs yeux que tu appartiens à Jésus. Nous, on est prompt à dire plein d'affaires. On est prompt à vouloir argumenter plein d'affaires. Je l'ai toujours dit, la lumière, ça parle pas. Le sel dit pas un mot. mais ils ont toute une influence, par exemple. Savez-vous à quelle vitesse les ténèbres fuient? À la vitesse de la lumière. C'était ça que ça prenait. OK. OK. J'aurais dû l'écrire, celle-là. Alors, retournons au début à notre scène des disciples, là, qui sont dans la pièce d'un jeudi soir, là, au repas. On retourne dans cette scène-là avec les disciples. Et on va regarder dans Jean au 13e chapitre, verset 14. Jésus leur dit quelque chose. « Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je suis sûr que si je l'avais annoncé, plusieurs ne seraient pas venus. Mais pour vrai, ça a été tout un casse-tête logistique de pouvoir préparer des petites cuves et d'avoir des linges pour tout le monde. Vous pouvez commencer juste à détacher vos souliers et enlever vos bas tranquillement. Et juste simplement, là, on va passer dans les allées, on va vous donner des petites cuves et des lingettes. On va se laver les pieds les uns les autres. Vous pouvez commencer à enlever vos souliers. Vous avez eu peur? Si j'avais annoncé ça la semaine dernière, qu'on ferait ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait juste avant de venir à l'église? Comme jamais vous l'avez fait. C'est vrai, hein? Vous auriez lavé les pieds comme jamais dans votre vie. Il faut comprendre une chose. C'est que laver les pieds n'a pas du tout le même sens pour eux que pour nous. Il y a tout un contexte. En fait, le lavage des pieds est plus nécessaire parce qu'on vient en auto, on a des souliers et des bottes, on n'a pas besoin, puis on a l'eau à la maison courante pour se laver. C'est totalement différent. On arrive les pieds propres. Mais à quoi ça peut bien ressembler de laver des pieds aujourd'hui autour de nous? Ça peut prendre plusieurs formes. Peut-être où ce que t'es à job, remplir la machine à café avec de l'eau. La remplir. Ah, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est pas grave, la remplir pareil. Je sais pas, de peut-être nettoyer le micro-ondes après quelqu'un qui a fait cuire sa soupe aux tomates ou sa sauce spaghetti, puis ça a tout explosé dans le micro-ondes. Si on va le nettoyer. À quelle forme ça peut prendre aujourd'hui? Mais peu importe la forme que ça prend, je suis convaincu que vous savez que ça prend du temps. Que ça demande du temps. Et on pense tous en nous-mêmes que nous n'en avons pas. Mais j'ai vraiment la conviction que Dieu multiplie notre temps quand on l'investit à servir les autres. Bob Goff, dans son livre « Everybody Always », dit ceci, en prochaine diapo. Il dit « Planifier d'aimer les gens est différent de simplement aimer les gens. Il est plus facile de faire des plans que de prendre du temps. » Plus facile de dire « on va faire un plan ». Non, on a de la difficulté à trouver du temps. Et tu dois choisir de servir, adorer, travailler, servir, adorer, travailler, servir, adorer, servir, travailler, adorer Dieu 24/7. Tu es au service de Dieu. Mais vous savez quoi? Le diable va te dire que tu es beaucoup trop occupé pour ça, toi. Tu n'as pas le temps de faire ça, voyons donc. Tu devrais t'occuper d'autres choses. Les autres vont s'en occuper. Mais vous savez, c'est là qu'on peut voir Jésus en toi. Dans comment tu sers. Parce que Jésus dit, voici, je vous ai donné un exemple. Faites comme je vous ai fait. Et Jésus, l'exemple. Et nous, on reste sur l'amour, on reste sur le témoignage de la croix, mais la réalité du contexte, c'est que Jésus fait référence à quelque chose de bien particulier, c'est qu'il leur a lavé les pieds. C'est de ça que Jésus parle quand il le dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ça veut dire « Servez-vous les uns les autres ». Soyez au service des uns et des autres. C'est ça qu'il leur dit en réalité. Je vais inviter Oli, on va terminer. Il y avait cette histoire que je trouvais super le fun du pape qui, quand il est venu aux États-Unis. Et alors qu'il est débarqué de l'avion, il voit qu'il y a une belle limousine flambant neuve qui est là. Extraordinaire. Et il y a le chauffeur qui l'attend pour embarquer et il s'en va voir le chauffeur puis il dit, hey, laisse-moi conduire. Je veux faire une ride de limousine. Je veux conduire. J'ai jamais la chance de conduire. Et le chauffeur dit, moi, je peux pas te laisser conduire. T'as-tu un permis? Tu chauffes ça, les limousines? Es-tu capable de conduire? Et le père dit, oui, je veux juste faire une virée avec ça. Let's go. Embarque en arrière. Puis moi, je vais conduire un bout puis je vais juste, ah ouais, on y va. Puis il argumente. Puis à un moment donné, il dit, OK. Le chauffeur dit, je veux que tu me promettes que tu vas être prudent parce que c'est moi qui est responsable. Ils partent. Le pape embarque dans l'auto. Le gars embarque en arrière. Et le pape roule, puis il commence à rouler à haute vitesse. Et il roule sur l'autoroute, puis il se fait ramasser, collé par la police. La police arrive à côté de la porte, hein, puis descend la vitre. Et le policier s'en vient, mais qu'est-ce qu'il presse comme ça? Et le excusez-moi, votre sainteté, faut que je vais faire un petit appel, je reviens. Il retourne dans sa voiture, il appelle son chef, puis il dit, chef, écoute, j'ai arrêté un gars qui mérite un ticket. Mais je pense pas que je devrais y en donner un. Puis le chef, il dit, ouais, mais comment ça? C'est quoi cette histoire-là? Il dit, c'est un gars important. Puis le chef de police, il dit, mais important, important, important comme quoi? Il dit, plus important que le président de l'Italie? Ouais, plus important que le gars de l'Italie. Ouais. Il dit, plus important que le gars, le président de l'Allemagne? Ouais, plus important. Plus important que le président du Canada? Le premier ministre? Ouais. Il dit, plus important que le président des États-Unis? Ah, oh, absolument, oui. Et il dit, mais voyons, c'est qui ce gars-là d'abord? C'est quoi cette histoire-là? Il dit, comment ça est plus important que tout ce monde-là? Le gars, il dit, je sais pas c'est qui. J'ai aucune idée. Je sais juste que le pape est son chauffeur. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que peu importe où tu te trouves, que tu sois le chauffeur ou celui qui a été chauffé, peu importe où tu te trouves, peu importe, les gens sont les mêmes devant la croix. On aime les histoires de gens qui sont partis de rien, tu sais, qui sont partis de la rue puis qui ont fait de la richesse extraordinaire. On aime ces histoires-là. Mais vous savez que Jésus a fait complètement l'opposé. Il est parti de la totale richesse à la plus pauvreté, de tout perdu. On lui a tout enlevé. Tous ses amis l'ont fui. Et il est parti de la richesse extrême à rien. Il a fait exactement l'inverse. Philippiens au deuxième chapitre, versets 6 et 7 dit, « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. » Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a dit, voici comment tu devrais travailler. Tu penses qu'il parle pas de travail? Voici comment tu devrais être dans vie. Voici comment ça devrait se passer, ton travail. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15, qui dit ceci dans la version Parole vivante. Je ne puis que remercier Dieu. Partout où nous allons en suivant le chant triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum de Christ, ou pour employer une autre image, cet encens offert par lui qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. Nous le sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver et ceux qui continuent à courir sur le chemin de la perdition. Le texte est en train de nous dire que dans tout ce que vous faites, vous êtes cette saveur, cette odeur, cet arôme dans votre environnement. Vous êtes ce parfum-là. Dans la pièce au travail, tu as cette odeur-là. Ou tu dois avoir cette odeur-là. L'odeur du parfum de Christ dans ta vie. Les gens doivent sentir cette différence-là quand t'es là. Quand t'arrives dans la pièce, les gens, ils font comme... C'est spécial, il est différent, lui. Il est pas pareil comme les autres. T'apportes ce parfum-là qui change l'atmosphère. Ce parfum dans la vie d'une personne qui pense que sa vie n'a plus de valeur, tu es ce parfum-là. Une personne qui pense que sa vie n'a plus de sens, tu es cette odeur-là, cette saveur-là. La saveur de la vie en toi, qui change l'atmosphère. Une personne qui pense qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'a pas ce qu'il faut, qui se diminue, manque d'estime de soi ou de confiance en soi. On peut avoir la plus grande confiance et estime en nous-mêmes parce que je sais qui je suis à cause de celui qui m'a sauvé. Vous savez, parfois, c'est juste une parole. Des fois, c'est un câlin. Des fois, c'est juste une tape sur l'épaule. Un encouragement. Une poignée de main. Je dis, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, viens me voir. Des fois, c'est juste ça. Je termine avec cette phrase-là. Prochaine diapo. Lorsque votre carrière ou votre travail entre en collision avec son appel, vos collègues et vos clients rencontreront Jésus. C'est Jésus à qui ils vont faire face. Vous serez ce parfum-là. Vous savez quoi? Dieu ne nous demande pas de tout faire, là. Il nous demande juste de faire une chose. Ma question, c'est laquelle ça va être demain matin? Qu'est-ce que vous allez faire demain matin, ce lundi? Ça vous appartient. C'est à vous de prendre cette décision-là.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.eglisem.com. www.eglisem.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.